Si quelqu'un a envie de prendre un chant avant le culte, vous pouvez librement vous exprimer maintenant, puis on essaiera de l'interpréter et de vous accompagner du mieux qu'on peut. Faut juste parler fort. Le 794.
794.
Encore une fois, si quelqu'un veut proposer un chant avant qu'on commence le culte, vous êtes plus que les bienvenus.
Je viens de ta maison.
917.
Bienvenue tout le monde, bienvenue en ce dimanche matin, ça fait trop plaisir de vous voir. Bienvenue à vous les enfants qui êtes devant, c'est chouette aussi de vous voir. On va passer un petit temps de louange, soyez vraiment les bienvenus. On va commencer à proclamer que Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre.
Vous m'entendez ? Ok.
On aimerait vraiment prier Seigneur ce matin, soit avec nous, soit... Descends au milieu de nous, Seigneur, qu'on puisse te rendre un culte qui te rende gloire, Seigneur, qu'on puisse te célébrer ton nom ensemble, dans la joie d'être tous ensemble en Église.
Amen.
Et on peut se lever pour chanter que Christ est la lumière du monde.
Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Sens infini qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie.
Notre Seigneur est saint. Il veille sur nous tous les jours. Quand c'est facile, quand c'est difficile, il est tous les jours avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour qui tu es. Nous voulons chanter gloire à ton nom Seigneur. Gloire à toi parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je viens t'offrir Seigneur. Ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom.
Je viens te dire,
je viens te dire si c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai
parce que tu es avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Merci parce que tu nous accompagnes. Tu es avec nous dans nos moments difficiles, tu es avec nous dans nos semaines, tu es avec nous dans nos moments de joie. Et on veut te louer ce matin de ce qu'on est ébloui, Seigneur, ébloui par toi qui rayonne dans nos vies, Seigneur. Et on a vraiment envie de faire transparaître ta lumière, ta gloire, Seigneur, au travers de nous. Seigneur, viens, viens en nous, nous remplir de toi.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi. Tu seras toujours là.
Bonjour, d'abord les premiers, les enfants, les jeunes. S'il y a des enfants, il y a des parents, bonjour les parents. S'il y a des parents, il y a des grands-parents, bonjour les grands-parents. Certainement, il y a des arrière-grands-parents, bonjour les arrière-grands-parents. Bonjour les amis, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. J'ai dit bonjour les parents, donc il y a des mères, des pères. Y a-t-il des mamans, des papas? Les enfants peuvent-ils dire papa à leur père? Les pères peuvent-ils dire mon enfant, mes enfants? Moi, j'ai perdu ma maman et mon papa, mais j'ai toujours un papa dans le ciel. Jésus est à ce point habité par la tendresse de son Père. Il me parle comme un papa. Jésus, quand il était sur la terre, dit trois fois « mes enfants » à ses disciples. Là, dans cette manière de parler, Jésus se situe clairement dans le rôle d'un père. Le premier passage se trouve dans Jean 13, verset 33. Jésus s'adresse à ses disciples en disant, en grec, « technia, mes petits-enfants », en lavant les pieds aux disciples. Il parle à des adultes, à des hommes, sans nullement les infantiliser. C'est un terme très affectueux. Pourquoi Jésus adopte-t-il un ton aussi affectueux pour ses grands gaillards de disciples ? Jésus vient de laver les pieds à ses disciples, au verset 5. Par ce geste, on voit l'extrême humilité de Jésus qui s'abaisse ainsi au rang, de serviteur. Ce geste est aussi celui d'une mère qui prend soin de ses enfants à l'âge où ceux-ci sont trop petits pour se laver eux-mêmes les pieds. Nous découvrons ici en Jésus la tendresse d'une mère pleine d'affection. Jésus apparaît ainsi comme un véritable père maternel, incarnant la tendresse de Dieu le Père, lui-même si maternel. Comme les disciples, nous avons bien besoin de Dieu qui, dans la tendresse de son amour, est seul capable de nous purifier pour que nous soyons entièrement purs jusqu'au cœur. Jésus nous lave notre cœur avec autant de délicatesse que s'il lavait les pieds d'un petit enfant. Le deuxième passage se trouve dans Jean 21, verset 5. Jésus s'intéresse aux disciples en disant, en grec, « paidia », « mes petits enfants ». Ce mot désigne un enfant de moins de 7 ans, ce qui est bien sûr étonnant de voir les disciples ainsi appelés. Qu'est-ce qui, encore une fois, pousse Jésus à parler ainsi, « mes petits-enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Jésus s'inquiète ici de leur nourriture, et l'on apprend peu après qu'il a préparé pour eux du poisson grillé et du pain au verset 9. Nous découvrons ici le Christ à nouveau dans l'attitude d'une mère qui a préparé à manger pour ses petits-enfants à l'âge où ceux-ci sont trop petits pour cuisiner du poisson ou faire du pain. « Mes petits-enfants !» dit celui qui révèle discrètement la tendresse d'un père maternel. Le troisième passage se trouve dans Marc 10, versets 24-25. Jésus interpelle ses disciples en disant en grec « Tekna, mes enfants, il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, ce qui provoque chez les disciples un étonnement. Mes enfants, dans le but de rassurer ceux-ci, ceux qui sont dans la crainte au sujet de leur salut. Soyez donc sans crainte, mes enfants, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Soyez donc devant Dieu aussi confiants que des enfants devant leur père. Et ce père en question n'est autre que celui qui vient de leur dire « mes enfants ». Au verset 27, Jésus les regarde en leur parlant. Jésus pose un regard au plus profond de notre cœur en nous parlant « Quel amour ce papa !» Mon père, à moi, était très peu présent parce qu'il avait une industrie et souvent il retournait travailler le soir. À part ça, mon papa était très très disponible pour ses enfants, pour moi, le jour comme la nuit. Il suffisait de l'appeler et il était là. J'essaye avec mes enfants de ressembler à mon papa. Ma première voiture, je l'ai achetée à Saint-Pré. Je suis allé en train à Saint-Pré, j'ai acheté la voiture, j'ai pris la voiture pour rentrer et 500 mètres plus loin, je suis tombé en panne. C'était la nuit. J'ai téléphoné à mon père et mon papa est venu avec sa voiture, une corde pour me remorquer jusqu'à Genève. Nous avons un papa céleste, adressons-nous à lui, il nous aime. J'aimerais prier. Oui, Dieu est Père, Papa, nous pouvons te parler, nous pouvons nous mettre devant toi. Toi, tu es là, vers nous, ce matin, au milieu de nous, et nous voulons te louer, te dire merci, parce que tu as fait de grandes choses. Tu es venu sur la terre, tu es mort, mais tu es ressuscité. Pour que nous puissions avoir le salut. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu et Père. Amen.
Bonjour les enfants. Oh, vous êtes nombreux ce matin. C'est super. Alors, avant que vous partiez à l'école du dimanche, je vais vous refaire une petite expérience. Donc, c'est vrai qu'on vient de parler, hein, Jacques vous a parlé de Dieu le Père et puis de Jésus qui est le Fils. Comment est-ce qu'on peut savoir que Jésus existe? C'est vrai que c'est difficile, on ne le voit pas.
il est monté dans le ciel, donc ça veut dire qu'on ne le voit pas s'il est au ciel. Hein, comment est-ce qu'on peut lui parler? Hein, vous savez, on a un téléphone avec le ciel.
Par la pensée.
Par la pensée, oui. Et encore?
Prier.
Prier, voilà. Et ce qui nous fait dire alors, que Jésus ouais. existe vraiment, c'est qu'il répond. Hein, quand on prie, il répond. Il y a des tas de fois où on a vraiment des miracles parce qu'on voit que Dieu répond. Et très difficile, on vous parle de Dieu le Père, on vous parle de Jésus qui est le Fils de Dieu, et puis on vous parle encore du Saint-Esprit. Ça en fait trois pour le prix d'un. Comment est-ce qu'on fait pour les délimiter? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qui est qui? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est à la chapelle, Nicolas nous avait fait une petite expérience. Et je crois que c'est la meilleure façon de se rendre compte de qui est vraiment Dieu. Qu'est-ce que j'ai là devant? Un verre, avec quoi dedans? Avec de l'eau. Ouais, c'est bon, j'ai déjà fait chauffer, Jacques. Donne-le-moi. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Non, donne. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre dans ce verre-là? De l'eau chaude, ouais. Qu'est-ce que c'est qui sort là? De la fumée, c'est quoi cette fumée? De la vapeur. Et cette vapeur, elle est faite avec quoi? Ben, c'est de nouveau de l'eau qui s'évapore. Et puis, qu'est-ce que j'ai là? Des glaçons. Et puis, les glaçons, c'est quoi?
C'est de l'eau.
Eh bien, c'est encore de l'eau. Vous avez vu ça? J'ai trois fois de l'eau, mais sous une forme différente. Mais ça reste trois fois de l'eau. Ah, ben Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ils sont sous des formes différentes, mais c'est chaque fois la même personne qui s'occupe de nous. D'accord? Ah, c'est un peu difficile, vous savez, même pour les adultes, on a des fois de la peine à comprendre ça. Ça, c'est vrai. Et puis après, on dit qu'il nous faut la foi. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas, on doit y croire. Hein, puis c'est en priant, puis en ayant des réponses, qu'après, on y croit. Voilà, vous allez descendre dans vos groupes d'école du dimanche. On va encore juste prier pour vous et pour les moniteurs. Attendez deux secondes encore. Seigneur, on veut te remettre encore tout ce groupe d'école du dimanche. Tu vois qu'ils sont nombreux aujourd'hui. On te remercie pour tous ces enfants qui peuvent se réunir librement pour entendre parler de toi. Alors, on te demande qu'ils soient attentifs et on te remet déjà tous les moniteurs aussi pour qu'ils puissent faire passer un message de toi. Amen.
Comme ça va? Moi, je vois assez bien, c'est bon comme ça.
Je priais pour toi.
Merci, Dieu et Père, parce que ce matin encore, nous pouvons recevoir de toi un message. C'est Benjamin Anchaud qui va nous le présenter, qui a été inspiré par toi et nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Amen.
Amen. Alors voilà, est-ce qu'on m'entend bien? Ça va le micro? Ouais. Ben, ça fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Il y a une partie des visages que je reconnais, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de moi. J'ai été stagiaire entre 2015 et 2016 ici, et on avait deux enfants avec ma femme, Naomi et Elias. Depuis, la famille s'est agrandie avec l'arrivée de Lucie et puis d'Anouk, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir revenir aujourd'hui ici. Après mon départ de stage, j'ai été pendant 4 ans à Bienne. Et depuis une année, je suis à l'église L'Espérance, qui est quelque part là-bas. Vous connaissez certainement, au Grand Nancy. Donc ça fait vraiment plaisir d'être de retour dans la région genevoise. Alors moi, ça me fait, j'ai plein de souvenirs en fait ici. Je vais en raconter deux ou trois. Je me souviens des excellents moments qu'on a passés au catéchisme. C'était vraiment, vraiment super avec Xavier, avec Jean-Yves, avec Roger Sewell. C'était Roger Sewell qui était mon maître de stage. Et il m'a vraiment consacré beaucoup de temps. C'était une bonne préparation pour vivre ce que j'ai vécu à Bienne avec l'Église. où j'ai trouvé une église qui était en post-crise. Il y avait une crise juste avant que j'arrive. Et vraiment d'avoir eu un stage avec Roger Sewell qui était très relationnel, très calme, très doux. C'était vraiment un privilège pour pouvoir aller apporter cette paix un peu plus loin. Je me souviens une fois, j'avais des formations de stagiaires à Emmaüs pendant l'année. Et puis tout d'un coup, ma femme m'appelle. « Ah, il y a Naomi qui s'est enfermée dans la chambre. Qu'est-ce que je fais ?» Alors, et maintenant c'est terrible, hein, j'ai les noms qui s'échappent. Paul Robert, chanson, je l'ai appelé, il est venu, il a pu ouvrir la porte en deux temps, trois mouvements. C'était vraiment super. Il y a eu toutes les soirées avec le conseil, il y a eu le chemin de la passion, toutes les relations œcuméniques. Enfin, vous l'aurez compris, ça me fait vraiment plaisir d'être de retour ici. Ce matin, j'avais envie de vous parler de Dieu le Père. Et puis avant que j'oublie, je vais citer quelques sources parce que je me suis inspiré d'un livre de Delight in the Trinity de Michael Reeves, de certaines vidéos d'Alexis Masson, Le Dieu de la philo, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Dieu de la philo, et puis encore de la théologie systématique de Wayne Grudem. Après je parle et puis j'oublie de citer mes sources, donc comme ça vous êtes au courant. Donc vous avez tous entendu, j'imagine, une fois dans un film, entendu dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et c'est une formulation qui nous interroge, est-ce qu'il y a un Dieu ou est-ce qu'il y a trois dieux? Alors ce matin, on va parler de la nature de Dieu. Alors on imagine bien qu'on va avoir quelques petits soucis, parce que déjà, quand on essaye de parler d'une personne, on a des problèmes. Alors tant qu'on reste au niveau physique, au niveau mécanique, on arrive à comprendre pas mal de choses, mais quand on arrive au niveau psychologique, à ce qui est un peu, on va dire, immatériel, ça devient beaucoup plus compliqué. Et est-ce qu'on arrive vraiment à connaître une personne? Est-ce qu'on arrive vraiment à la définir dans toute sa globalité, savoir qui elle est? On a toujours une partie de doute. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré cette partie de doute, on arrive à être en relation les uns avec les autres. On arrive à connaître une partie de la personne et être en relation. Avec Dieu, c'est un peu la même chose. En parlant de la nature de Dieu, on imagine bien qu'on ne va pas pouvoir comprendre toute la complexité de Dieu. Il est infini, nous sommes finis. Mais on va pouvoir comprendre quelque chose qui va nous permettre d'être en relation avec Dieu. La plupart des gens savent que la Trinité fait partie des choses importantes de la foi chrétienne. Et même si on sait que c'est quelque chose d'important, d'indispensable, souvent ça ne change rien à notre vécu. On sait que c'est quelque chose de bien, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais finalement, il est unique. Puis finalement, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Et j'ai même des chrétiens, des fois, je rencontre des gens, ils sont convaincus de la divinité de Jésus-Christ, ils sont convaincus de la divinité du Saint-Esprit, puis ils disent la Trinité, mais c'est un truc un peu bizarre, la Trinité. Moi, tu crois ce que tu veux, mais moi, je préfère pas trop m'avancer. D'ailleurs, ce n'est pas écrit dans la Bible, donc est-ce que vraiment on peut parler de la Trinité? La Bible n'en parle pas. Je suis un peu plus nuancé. La Bible fait trois affirmations très claires sur la Trinité. Tout d'abord, la Bible dit que Dieu est trois personnes. Quand on dit que le Saint-Esprit est une personne, il ne faut pas l'imaginer avec deux mains, deux bras, deux jambes. On dit que c'est un esprit personnel par opposition à quelque chose qui serait impersonnel. Il y a des gens qui ont vu Star Wars? Oui? Ben, la force dans Star Wars, c'est impersonnel. C'est un truc qu'on manipule, qui est là, qu'on essaie un peu de saisir. Le Saint-Esprit n'est pas la force dans Star Wars. Le Saint-Esprit est personnel. On peut l'attrister. Il a une volonté. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois personnes. La deuxième affirmation, c'est que chaque personne est pleinement Dieu. Quand Jésus est présent, l'entièreté de la divinité est présente. Quand le Saint-Esprit est présent, l'entièreté de la divinité est présente. Quand le Père est présent, tout Dieu est présent. Et la troisième affirmation, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça, on le trouve dans la Bible. Qu'on veut le mettre le mot Trinité dessus ou pas, je veux dire, peu importe. Mais ces affirmations sont là. Et je me suis dit, mais d'où vient cette indifférence, voire cette méfiance par rapport à la Trinité? Bien, je crois que on voit. Il faut que j'allume ma zapette. Voilà. Je teste, hein, sinon je ferai des signes. Je te ferai un signe, Raymond. On peut passer à la prochaine slide. Je crois que souvent, on voit la Trinité comme un problème à résoudre. Puis alors, on essaie de mettre toutes sortes d'images, d'illustrations. Et vous avez déjà vu ça? Non, vous n'avez jamais vu 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ça, c'est souvent quand on essaie de présenter la Trinité, on le fait comme ça. Et cette manière de présenter la Trinité, je la trouve un peu problématique. Parce que, en fait, on dit que trois personnes est égale à, on dit qu'il y a trois personnes et une nature en Dieu. Donc, on essaye d'additionner deux choses qui sont différentes. Hein, c'est comme si on essaye d'additionner, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec Dieu, hein, mais trois chaises et puis on dit que c'est égal à une pomme. Tu peux passer à la prochaine slide, hein, Raymond. Ça fonctionne pas et on l'a appris en physique. Hein, ça paraît bête dit comme ça, mais en physique, je suis sûr, si vous avez fait un peu de physique dans votre parcours, vous avez été confronté une fois, vous avez fait tout votre calcul, vous arrivez à la fin à un résultat, puis ça n'a pas de sens. Puis vous remontez, puis vous remarquez, zut, j'ai additionné une vitesse avec une accélération. Pas possible. Ça donne des erreurs. Et c'est un peu la même chose. En fait, on parle de personne et de nature. Donc, on ne peut pas dire que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Je pense que c'est un peu prendre le problème par le faux bout. Alors, on peut se demander s'il y a une bonne manière d'expliquer la Trinité. J'ai entendu et j'ai lu de nombreuses manières de le faire et très vite on est confronté à des problèmes. On se heurte très rapidement, l'image atteint ses limites. Et ces images, en fait, m'ont assez peu aidé à m'approcher de Dieu. Et c'est d'ailleurs une objection qu'on fait souvent à la Trinité, c'est de dire, mais finalement, c'est tellement compliqué. Est-ce que ça peut être vrai? Si Dieu a tout créé, ben forcément, il est simple. On peut facilement le comprendre, il est accessible à tous. Oui, bien sûr, Dieu est accessible à tous. Mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué, que c'est faux. Hein, je reviens à mes cours de physique. Est-ce que c'est toujours facile, la physique? Non. Est-ce que c'est toujours faux, la physique? Non, il y a des choses qui sont vraies et qui sont compliquées. Puis en fait, on fait tous de la physique. Hein, quand vous allez dehors puis que vous lâchez une pierre, vous avez fait de la physique. Il n'y a pas tout le monde qui sait que la pierre va accélérer à 9,81 mètres par seconde au carré, mais tout le monde va constater que la pierre, elle tombe. Puis ce matin, je vous propose qu'on laisse toutes ces questions philosophico-théologiques de côté, puis qu'on aille lâcher des pierres ensemble. Au lieu de considérer la Trinité comme un problème à résoudre, je vous propose qu'on voit la Trinité comme une solution à nos problèmes, comme une réponse à nos questions, et qu'on renverse les choses. Lorsque Jésus a commencé à enseigner ses disciples à prier, il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Il appelle Dieu Père et nous invite à faire de même. Il ne dit pas « Lorsque vous priez mon Père », il dit non. Voici comment vous devez prier, notre Père. Car en Jésus, comme le dit Romains 8, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu est notre Père. Et ça change radicalement la vision que nous avons de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui est désinvesti du monde. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain ou encore inaccessible. Il est notre Père. Alors, encore faut-il avoir une vision positive de ce qu'est un Père. Chacun en a fait une expérience avec nos pères terrestres qui est différente. Peut-être a-t-il été ce père toujours présent pour vous, qui a su faire ressortir le meilleur de vous, qui a toujours été à l'écoute de vos problèmes. Peut-être, au contraire, a-t-il été absent. Ou pire encore, peut-être a-t-il abusé de vous. Quoi qu'il en soit, que votre père ait été extraordinaire ou absent, Dieu est différent. Il est ce papa que nous avons jamais eu, celui qui est toujours à l'écoute, qui sait nous comprendre quoi qu'il arrive, qui a une oreille attentive, qui sait nous reprendre avec fermeté lorsque nous en avons besoin et qui en tout temps sait nous conduire sur le bon chemin. Ce n'est pas un hasard si la révélation, le point culminant de la révélation arrive en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Dieu a choisi de se révéler dans son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire qu'il est Père. Comment mieux montrer aux hommes qu'il est Père qu'en envoyant son Fils ? Et Dieu, il n'est pas devenu Père lorsque Jésus est arrivé sur terre. Il était déjà Père bien avant l'existence du monde. Il est Père de toute éternité. Ça tranche avec notre expérience de Père en tant qu'homme ou de mère en tant que femme. Parce qu'il y a un temps, il y a un moment donné où on n'est pas encore papa, on est jeune homme, jeune femme, célibataire, et tout d'un coup, on devient père avec l'arrivée d'un enfant. Et ça, c'est étonnant hein, quand on voit quelqu'un qui est en train de vivre cette transition, il y a un changement au niveau de son caractère, au niveau de comment il prend soin des autres. Il n'y a pas ce changement en Dieu, parce qu'il est père de toute éternité. De toute éternité, Jésus est le Fils de Dieu, et donc de toute éternité, Dieu est Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fait que Dieu soit Père ne dépend de rien d'autre que lui-même. Ça fait partie de son caractère, ça fait partie de sa nature, de son identité. Ça ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de notre ressenti. Et cette réalité révolutionne notre relation avec Dieu parce que notre rapport avec lui est changé. Dieu porte un regard bienveillant sur moi, non pas parce que j'ai fait quelque chose de bien, non pas parce que je prie régulièrement ou à cause de ma fidélité. Non, Dieu est prêt à t'accueillir ce matin, à ce moment précisément, parce qu'il est Père, parce qu'il a ça en lui, dans son cœur. Il y a quelque chose qui bat pour chacun d'entre nous. Et puis quand on sait royalement planté, quand on s'est vautré, ben Dieu il nous aime toujours de la même manière, parce que c'est dans sa nature d'être un père. Et quand je pense à cela, il y a une sorte d'élan qui naît en moi en me disant, mais oui, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de m'approcher de toi. Et une autre différence entre nos pères terrestres et notre Père céleste, c'est que malheureusement, nos pères terrestres finissent toujours par partir. Il y a des circonstances de vie qui nous éloignent, des circonstances qui peuvent être tragiques, une dispute, un malentendu, un abandon. Il y a aussi des circonstances tout à fait naturelles, quand un enfant prend son envol, qu'il se marie, qu'il va faire des études. Et puis finalement, il y a toujours une réalité qui nous rattrape, c'est la mort. Dieu n'est pas soumis à ces réalités. Que tu aies quitté la maison, que tu sois parti à l'autre bout du monde, qu'il y ait une dispute, Dieu est là. Et la mort ne nous séparera pas de lui. Il est toujours prêt à nous accueillir, où que nous en soyons. Imaginons que Dieu se soit révélé premièrement comme créateur. Ce qu'il est par ailleurs, hein, on sait que Dieu est créateur. Si Dieu était premièrement créateur, que serait-il lorsque le monde n'existait pas ? Il aurait eu besoin de la création pour donner un sens à son existence. En imaginant un Dieu unique avant la création, parfois on imagine quelqu'un qui s'ennuie dans une espèce d'immensité, un néant, et puis qui se dit « bon, bah, je m'ennuie, je vais créer la terre et les cieux, comme ça j'aurai quelque chose à faire. » Nous serions alors, d'une certaine manière, contraints de l'aimer, ou tout du moins, le bonheur de Dieu dépendrait de la réponse que nous lui accordions à son acte de création. Autrement dit, l'amour que Dieu nous accorderait serait pas un amour désintéressé, mais un amour qui a besoin d'une réponse pour subsister. Imaginons que Dieu soit d'abord ou se révèle d'abord comme un juge, juge qu'il est par ailleurs, chargé de faire respecter l'ordre. Alors notre rapport serait un peu le même que celui que nous avons avec la police. Alors s'il y a des policiers parmi vous, soyez vraiment les bienvenus, j'apprécie le travail que vous faites, mais il faut le dire, hein, avec la police, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Si tu ne me vois pas, j'ai rien fait. Quand il n'y a pas de radar, on appuie sur le champignon. Et puis si on fait ce qui est bien, ben finalement, c'est pour tenter d'obtenir une récompense, si toutefois il y a une récompense. Mais en obéissant de cette manière-là, ben on ne peut pas obéir au premier commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Imaginons maintenant un Dieu unique, une seule nature, mais trois personnes. Un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Que faisait Dieu avant la création du monde? Vous allez dire, question très abstraite, comment est-ce qu'on peut savoir? En fait, il y a un verset qui parle de ça. Je vais lire deux versets en Jean 17, verset 5, et en Jean 24. C'est Jésus qui prie et qui dit, Jean 17, verset 5 et verset 24. « Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » En mettant ces deux versets côte à côte, on voit que Dieu a donné la gloire au Fils parce qu'il l'aimait, et qu'il l'aimait avant la fondation du monde. Quand Dieu était tout seul, il y avait cet amour au sein de Dieu. L'amour véritable se partage et se multiplie en se partageant. Et c'est possible au sein de la Trinité. Il n'y a pas un moment où Dieu n'aimait pas. Il n'y a pas un moment où Dieu ne partageait pas son amour. De tout temps, Dieu partage son amour par son esprit. Et c'est magnifique de voir que Dieu partage son amour par son esprit. On le voit à de nombreuses reprises dans la Bible, lorsque Jésus se fait baptiser. Le Saint-Esprit vient partager la joie que le Père a à voir le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand le Saint-Esprit descend sur Jésus, c'est ce que Dieu dit, ce que le Père dit. Ailleurs, en Romains 5, verset 5, il est écrit « Que l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit, il communique l'amour du Père sur le Fils et Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour nous communiquer son amour. Un Dieu trinitaire est donc un Dieu qui aime. Car si Dieu était seul avant la création du monde, comme le disent par exemple les musulmans, comment pourrait-il être amour? Il y a un des 99 noms au titre d'Allah qui est celui qui aime, le bien-aimant. Alors s'il était seul, indivisible, qu'il n'était pas trinitaire, ben, qu'est-ce qui se passerait avant la création? Est-ce qu'il s'aimerait lui-même? Mais si s'aimer soi-même, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu égoïste? Est-ce qu'il aimerait la création avant qu'elle vienne? Mais dans ce cas, est-ce qu'il serait vraiment indépendant de sa création? Est-ce que Dieu dépendrait de la création pour être qui il est? Dieu aime de toute éternité. Vous imaginez l'amour qu'il y a au sein de Dieu? Au sein de ce Dieu unique, saint, irréprochable, il y a un amour tellement puissant comme nulle part ailleurs. Et cet amour est tellement fort qu'il s'ouvre sur l'extérieur et donne naissance à la création, non pas comme un besoin qui serait là à remplir, mais comme un acte d'amour désintéressé, un amour tellement grand que ça déborde sur l'extérieur. Et après avoir tout créé, il a créé l'homme comme le couronnement de la création, l'homme et la femme, pour pouvoir vivre une relation d'amour librement consentie. C'est difficile à réaliser, vous ne trouvez pas? Une relation personnelle, intense, profonde, fondée sur l'amour librement consenti. Dieu, le Père de toutes choses, veut nous aimer. Il veut m'aimer moi, il veut t'aimer toi, de cet amour tellement puissant. On semble tellement loin de cette réalité. Où en es-tu, toi, dans ta relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que vraiment je vis cet amour de Dieu? Cet amour qui devrait naturellement découler de cette relation, puisque Dieu est Père. Ah, il n'est pas seulement Père, il est notre Père. Et si je ne vis pas cette intimité, où est le problème? Qu'est-ce qui m'en empêche? Est-ce que je suis une exception pour qui l'amour de Dieu ne coule pas? Pour goûter à l'amour du Père, il faut s'approcher du Fils. En fait, il y a un gouffre entre nous et Dieu à cause de notre péché. Alors, on ne va pas s'attarder longuement sur ce que c'est le péché. Hein. Je vais juste donner deux, trois exemples parce que je pense qu'on est assez conscient au XXIe siècle du péché. Qui d'entre vous, comme moi, a pris sa voiture pour venir ici? En 2013, ça date déjà de quelques années, hein, je n'ai pas trouvé de statistiques plus récentes, en Suisse, il y a 5000 personnes qui sont mortes prématurément à cause de la pollution. Et si nous avons pris la voiture ce matin, nous y avons contribué. Nous avons tous un compte en banque, enfin j'imagine. Mais peut-être que les fonds d'investissement de cette banque par laquelle on contribue avec notre épargne, eh ben, vient de créer une catastrophe, à financer des entreprises qui créent des catastrophes environnementales. Et puis, où est-ce qu'on en est avec notre conjoint, avec nos collègues, nos parents? Pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que le péché nous gangrène et nous sépare de Dieu. Et Dieu a précisément envoyé son Fils pour résoudre ce problème, pour combler ce trou qu'il y avait entre lui et nous. Sur la croix, Jésus est venu effacer notre péché pour révéler Dieu comme Père, pour que nous ayons accès à ce Père. Et quand il est monté au ciel, il a dit, mais je vais vous envoyer mon esprit. Pourquoi? Pour que vous ne soyez pas orphelins. En Christ, Dieu cesse d'être ce Dieu lointain, inaccessible, qui ne se soucie pas de moi. Mais il devient un Père proche, qui se soucie des hommes, qui fait route avec nous. En Christ, Dieu cesse d'être ce juge qui condamne chacune de nos actions et devient un Père bienveillant. Et cela ne s'arrête pas à notre renouvellement de la compréhension de qui est Dieu. Lorsqu'on s'approche de Jésus, Dieu nous vous envoie son esprit. En Romains 8, versets 15 et 16, il est dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Mais j'avais accepté de marcher avec Jésus. » Puis quand j'étais ado, j'avais, je sais pas, 13, 14 ans, j'avais tellement besoin que quelqu'un me manifeste de l'affection. Puis un soir, sa maman, je sais pas, elle travaillait, elle avait un rendez-vous, je sais pas, son père était ivre sur le canapé et elle a prié dans sa chambre. Elle a vécu quelque chose de tellement fort avec Dieu, comme si Dieu la prenait dans ses bras. Si on veut vivre de l'amour de Dieu, on n'a pas d'autre choix que de s'approcher de Christ. Oui, mais comment? J'aimerais vous inviter à une démarche qui a un double aspect. Je vais vous inviter tout à l'heure, ceux qui souhaitent être renouvelés dans cet amour du Père, à vous lever et on va prier. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais vous inviter à prendre des temps de méditation régulière. Et puis, pour ce matin, je vous invite, pendant le mois de mars, deux fois par semaine, à prendre 10 minutes de méditation. Pourquoi choisir la méditation? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire un temps de pause dans nos activités. C'est un besoin tellement pressant que beaucoup d'écoles, même publiques, ont introduit des cours de méditation en pleine conscience. pour les enfants. Vous savez, hein, cette méditation, c'est, ils appellent ça des fois retour au calme. On a invité à baisser la tête, regarder son nombril, monter et descendre avec sa respiration, essayer de faire le vide de ses pensées, et puis éventuellement aller chercher au plus profond de nous-mêmes une espèce d'élan de bonté qui n'a pas été corrompu par notre société. La méditation chrétienne fait tout l'inverse. Plutôt que de regarder son nombril, on lève la tête vers Dieu. Plutôt que de chercher à vider sa tête de ses pensées, on essaye de se remplir de Dieu. Plutôt de regarder sa respiration et de se concentrer sur sa respiration, on invite le souffle de Dieu à nous remplir. Plutôt que de chercher la bonté en soi-même, on est invité à tourner les yeux vers la source de la réelle bonté qui n'est pas corrompue, Dieu. Et c'est pour ça que je vous propose un petit chemin de méditation. Normalement, il est affiché. N'hésitez pas à prendre une photo, comme ça vous en souviendrez pour le mois de mars. Il y a d'autres chemins de méditation et tout se passe par Jésus. Dans la méditation chrétienne, on ne peut pas faire autrement que de passer par Jésus. Ça, c'est une possibilité, il y en a plein d'autres. Premièrement, dire à Dieu que nous voulons entrer dans sa présence. Ensuite, prendre juste quelques instants pour déposer un gros souci. Troisièmement, demander pardon pour nos péchés en vertu de l'œuvre de Jésus. Et ensuite, penser au fait que Dieu est Père. On peut s'accompagner de tous les versets bibliques qui disent que Dieu est Père. Et finalement, invoquer le Saint-Esprit pour que Dieu nous communique son amour. Pour vous donner un ordre d'idée, les points 1 à 3, ça prend 1-2 minutes et le reste du temps, on médite sur Dieu. Pourquoi viser 10 minutes, pas 20, pas 1 heure? On a tous 10 minutes dans une journée. Et je vais vous inviter à prendre une décision aujourd'hui de faire ça pendant le mois de mars, le lundi et le jeudi. Puis si vous n'êtes pas prêt à faire ça, je me dis, est-ce que vous avez vraiment envie d'être renouvelé dans l'amour du Père? Donc ce matin, les deux choses sont liées. Il y aura d'autres fois où ce ne sera pas lié. Hein, ce n'est pas une condition biblique pour accéder à Dieu. Vous savez, notre vie spirituelle, c'est un peu comme une petite plante. Je ne sais pas si vous avez fait des semis. Des fois, ça ne sert à rien de mettre 2 litres d'eau dessus une fois et de plus s'en occuper. Chaque jour, il faut mettre un petit peu d'eau pour que la plante puisse grandir. C'est la même chose avec nous, dans notre relation avec Dieu. Je propose peut-être à l'équipe de louanges de venir. Et pour terminer, j'aimerais simplement inviter tous ceux qui veulent entrer dans cette démarche d'être renouvelés par l'amour du Père et qui ont envie de prendre ce temps de méditation, à vous lever. Et puis on va prendre un temps de prière. Je vous propose... Je vais prier, vous savez, moi je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Moi je ne suis pas un magicien, quand je lève les mains, il n'y a pas le... Voilà. Mais simplement qu'on puisse se positionner devant Dieu, puis dire, mais ce matin, j'ai envie de m'approcher de toi. Puis qu'on puisse prendre cet acte, non pas comme un acte magique où on ne sait pas ce qui va se passer, mais dire, Seigneur, je suis là, je suis disponible, viens à ma rencontre. S'il a envoyé Jésus, s'il a fait ce sacrifice de tout quitter pour venir sur terre, ce n'est pas pour nous laisser poireauter aujourd'hui dans le train-train du quotidien. Seigneur, alors que nous sommes rassemblés devant toi ce matin, nous sommes plusieurs à vouloir nous lever pour nous placer devant toi et te demander d'envoyer ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que nous sommes en manque de ton amour. Envoie ton Saint-Esprit sur nous. Viens manifester l'amour du Père. Ne tiens pas compte de ce couffre qui nous sépare de toi parce que Jésus a déjà payé le prix. Viens, Saint-Esprit, nous remplir de l'amour du Père. Et que rien, jamais, ne nous sépare de ton amour. Amen.
Je vous invite à continuer ce temps de méditation. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce que tu as apporté. Et avec le prochain chant, simplement s'asseoir, rester sur votre chaise et puis prier notre Père et ouais, lever les yeux au ciel. Soit le chanter avec nous, selon le verset qui nous a lu tout à l'heure, Romains 8. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ce qui veut dire Père.
Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, oh, oh. Tu rêvais du jour. Je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis un meurtrier, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grande ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Je suis à toi.
Chers amis, nous avons la joie et le privilège de pouvoir encore une fois et de nouveau partager ensemble le repas que le Seigneur nous a laissé avant de mourir. Et ceci pour ne jamais oublier ce qu'il a enduré pour nous et jusqu'où il est allé par amour pour nous. C'est le rappel de notre communion avec le Christ et entre nous. Le pain que nous prenons est un symbole qui nous rappelle que le corps de Christ qui s'est donné pour nous. Le vin que nous buvons est un symbole qui nous rappelle que le sang de notre Seigneur a coulé pour nous laver de nos péchés. J'aimerais juste faire une prière. Seigneur, merci parce que tu n'as pas renoncé. Tu es allé jusqu'au bout pour moi. Tu as enduré les coups, le mépris, les insultes. Tout cela sans ouvrir ta bouche. Parce que tu nous aimais tellement. Oh, Seigneur, on t'aime. Donne-nous de marcher chaque jour plus près de toi. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Papa. Amen. Je vous rappelle que les gobelets qui sont au milieu, qui sont roses, contiennent du jus de raisin. Et nous attendons que toutes les personnes soient servies pour prendre la scène ensemble. Pendant ce moment, il faut vous sentir libre de prier. J'aurai le micro et vous levez la main. J'appelle toutes les personnes qui ont été choisies pour la scène.
Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce beau message de ce matin et cette identité de Père. Merci parce que le terme revient si souvent dans la Bible et pourtant nous l'oublions aussi si souvent, cette notion de paternité parfaite, que nous puissions chercher dans notre foi au quotidien aussi à toujours créer ce lien et le recréer avec toi à travers la prière. Et merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix qui nous libère. Au nom de Jésus, amen.
Oui, Abba Père. Et Seigneur, merci pour cet amour qui est ton amour pour nous, qui est déjà avant la création. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment nous plonger dans cet amour, Seigneur, vraiment le ressentir, et Seigneur, pouvoir le partager. Mais Seigneur, nous voulons le ressentir, ressentir ta présence, Seigneur, ressentir que nous sommes tes enfants et que tes enfants, tu les aimes. Alors Seigneur, que nous puissions le partager aussi autour de nous. Amen.
Oui Seigneur, tu es vraiment notre papa, tu es mon papa. Seigneur, dans ma vie, je n'avais pas de papa, je n'avais pas de maman. Et tu as tout remplacé, Seigneur. Et tu m'as donné tellement d'amour, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Et je sais que tu continues à le faire et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Gloire soit ton nom, Seigneur. Amen.
Merci, Saint-Esprit, parce que c'est à travers toi que nous avons accès au Père et au Fils. Sois loué, sois béni, et que ta présence dans ma vie se fasse voir, que je puisse être un témoin de toi là par où je passe. Merci de toutes choses. Merci pour qui tu es. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur, merci parce que tu as un amour débordant. Comme ça a été dit, tellement d'amour que ça a débordé sur nous. Et j'ai envie vraiment de cet amour et j'aimerais tellement rempli que ça déborde aussi, que j'aime les autres malgré moi, juste par ton amour. Alors, Seigneur, je te supplie de m'aider à aimer comme tu aimes. Et je te remercie pour tout, toute cette personne que tu es qui est tellement aimante. Merci, Seigneur.
Nous voulons proclamer à nouveau ton amour dans nos vies. Nous voulons proclamer que nous sommes à toi, Seigneur, dans puissance terrestre, des puissances invisibles, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. On veut proclamer que nous sommes à toi, Seigneur, haut et fort. Je te prie de nous accompagner durant cette suite de semaines, que tu puisses, comme tu as toujours été, tu es à nos côtés, et que tu puisses nous faire sentir que tu l'es, Seigneur. On a vraiment envie de rester dans ton amour, de pouvoir rayonner par toi. Amen.
C'est beaucoup d'émotion de voir autant de monde ce matin. Ça faisait longtemps et ça fait plaisir de voir tous ces visages, d'avoir cette liberté de pouvoir tous venir et de voir les visages non masqués. C'est beaucoup d'émotion. Pour les annonces, alors pour commencer, le mémo est arrivé. Je vous le fais un peu comme le nouveau Beaujolais. Le Beaujolais nouveau est arrivé, mais vous avez les papiers qui sont dans le foyer et puis sur le site internet, vous le trouverez, sauf erreur, dès demain matin. Dans les choses aussi qui viennent d'arriver pour les enfants, le potager numéro 7 est distribué ce matin et pour les enfants qui ne seront pas là, il sera envoyé. Ensuite, jeudi 3 mars, donc on a une rencontre du conseil. Le samedi 5 mars, vous avez des flyers qui sont sur le présentoir à l'entrée. Quand la beauté du Christ rayonne à Mérin, donc si vous êtes intéressé par l'unité à Mérin, donc c'est une journée qui est organisée par les trois communautés, donc paroisse protestante de Mérin, paroisse catholique de la Visitation et église évangélique de Mérin. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à demain, c'était prolongé. Donc c'est le samedi 5 mars et c'est au centre John Knox au Grand Saconnet. D'accord, donc comme c'était prolongé, vous l'avez entendu, on a un peu limite. Donc si vraiment vous vous êtes intéressé par cette journée, allez directement vers Sylvain pour l'informer, comme ça on pourra transmettre à Philippe Gola pour les dernières inscriptions. Dimanche 6 mars, le derby des bois, pour ceux qui aiment courir et marcher. Pour plus d'informations, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous adresser à Claude Pernigoni, qui est juste derrière. Ensuite, dimanche 13 mars, alors là, je crois qu'il y a plus d'informations de la part de Daniel.
La boussole et le baluchon. Alors, je vous rappelle que ce dimanche 13 mars à 17h30, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez venir bien sûr aussi, voir ce spectacle. C'est un spectacle qui est vraiment magnifique par des professionnels. Donc, c'est des textes, c'est des lectures basées sur le livre de Maurice Gardiol. Et il y a aussi des instruments de musique, des chants. C'est vraiment un très beau spectacle qui parle de l'Évangile, d'une marche, une recherche du Dieu vivant. Alors, invitez toutes les personnes. Ceux qui habitent Mérin ont certainement vu dans le journal Ensemble que l'annonce a été publiée grâce à Philippe Gola. Et donc, venez avec le maximum de monde. Merci.
Alors oui, effectivement, Anne-Béatrice... On avait prévu un repas communautaire dimanche prochain, donc 6 mars. Est-ce que c'est bien noté dans le mémo aussi, Zéna ? Je ne sais pas si elle est là. Oui, d'accord, merci. Ensuite, dimanche 1er mai, c'est le dimanche des baptêmes. Et si vous êtes intéressé, il y a une formation qui se fait avant, si vous voulez... être baptisé ou simplement vous intéresser par rapport à ce sujet, vous questionner. Il y a une formation qui est prévue le samedi 19 mars. Pour ça, vous pouvez vous adresser à nos pasteurs. Alors, ce matin, la présence de Célina, Philippe et bien sûr, on l'espère, à l'espérance. Sinon, il faudra qu'il fasse des heures supplémentaires. Enfin, et ensuite, dernier point, le dimanche 22 mai. Je crois qu'on a... Il y a un petit son qui doit sortir, sauf erreur. Non, bon, ça passe pas. Donc, dimanche 22 mai, une sortie d'église à la cantine du Solia à la Vallée de Joux. Et vous aurez plus d'informations par la suite pour cette organisation de cette journée. Il me reste encore un point sur... Donc l'église fonctionne par vos dons et vous avez à la sortie la possibilité de faire une offrande soit directement dans le petit panier, soit par Twin, soit par versement sur le compte de chèque. Et puis, remercier aussi pour la présence de Benjamin. Et tu transmettras nos salutations à l'église de l'Espérance, que j'espère Philippe a aussi transmis ce matin. Mais en tout cas, merci d'être venu ce matin.
Alors, c'est un honneur d'être avec vous ce matin et vous avez bien évidemment les salutations de l'église de l'Espérance et Philippe a apporté la prédication ce matin. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez choisi, je suis sûr que vous avez choisi un bon pasteur parce qu'avec un nom comme ça, vous ne pouviez pas vous tromper. Alors, pour la bénédiction, je vous propose de vous lever et je vais lire ou même un petit peu paraphraser quand même, Romains 1, verset 7. À tous ceux qui sont à Mérin, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.